le journal. Faustine Calmel, bonjour Faustine.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Emmanuel Macron, hôte du G7 à Biarritz, début dans deux jours. Le chef de l'État enchaîne les rendez-vous diplomatiques avant le sommet. Boris Johnson aujourd'hui, des représentants iraniens demain pour faire sa place dans les grands dossiers internationaux. Mais ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, un air de campagne pour Donald Trump qui durcit encore les conditions des migrants. L'administration américaine veut garder les familles, enfants compris, dans les centres de rétention sans aucune limite de temps. Les agriculteurs français mobilisés contre le CETA, ils cherchent désormais l'appui des consommateurs pour contrer l'accord de libre-échange avec le Canada. Dans ce journal aussi, la parole d'une enfant face à celle d'un homme que les enquêteurs disent fasciné par la pédophilie, un chirurgien de Charente-Maritime accusé de viol et agression sexuelle. Un incendie cette nuit au sud de Paris, une femme morte à Créteil dans son immeuble en feu. Et puis du foot sans ballon, mélangé avec du badminton sans raquette. Ça s'appelle du plum foot. Les championnats du monde sont en ce moment dans le Val d'Oise.
Nos invités à 8h moins le quart, Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ils signent un film sur les écrans la semaine prochaine, La vie scolaire, le quotidien d'un collège en Seine-Saint-Denis.
France Inter. Le G7 à Biarritz en France, la rencontre avec Boris Johnson ce midi avant les premiers ministres grecs et indiens et des représentants iraniens pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire. Emmanuel Macron fait sa rentrée avec un véritable marathon diplomatique, entretiens bilatéraux qui s'enchaînent, session internationale pour tenter de jouer enfin un rôle de premier plan dans les grandes crises mondiales, car le président français peine à se faire une place et ses efforts nombreux n'ont pour l'heure pas ou peu payé. Franck Madvon.
En un peu plus de 2 ans, Emmanuel Macron s'est beaucoup activé sur la scène diplomatique, mais n'a encore enregistré aucun succès majeur. Les efforts de médiation sur la Libye, ou plus récemment l'Iran, n'ont rien donné. En Europe, le moteur franco-allemand tourne au ralenti. L'opération séduction menée auprès de Donald Trump a été un échec. L'Américain campe sur ses positions et rejette le multilatéralisme. La séquence à venir est donc importante pour Emmanuel Macron, l'occasion de réaffirmer les objectifs diplomatiques de la France et d'appliquer une fois de plus sa méthode, créer une relation personnelle avec les autres dirigeants. Pierre Vimont est ancien ambassadeur, chercheur associé à Carnegie Europe.
Jusqu'à maintenant, cette méthode-là n'a pas produit beaucoup de résultats, mais on voit bien, et on l'a vu encore ces derniers jours avec l'entretien entre le président de la République et le président Poutine à Brégançon, que le président est décidé à continuer dans cette voie pour essayer de développer une relation de confiance avec ses dirigeants qui ne sont pas très faciles à manier.
Cette méthode a au moins permis à Emmanuel Macron d'exister sur la scène internationale et l'Élysée reste convaincue qu'elle peut à terme porter ses fruits, même s'il est peu probable que des avancées majeures émergent des jours à venir.
Une avancée sur le Brexit, c'est ce que Boris Johnson vient chercher à Paris aujourd'hui. Le Premier ministre britannique, lui aussi, en tournée diplomatique pour plaider sa cause, celle d'une renégociation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hier, Angela Merkel a entrouvert la porte. « Je souhaite un accord négocié possible dans les 30 jours », dit la chancelière allemande. Porte immédiatement refermée par Emmanuel Macron. « J'attends des clarifications. Une sortie sans accord sera de la responsabilité britannique. » Empêcher les migrants d'entrer sur le sol américain coûte que coûte. Donald Trump est-il prêt à tout ? L'administration américaine annonce que désormais les enfants pourront être gardés en centre de rétention avec leurs parents sans aucune limite de temps et provoque des réactions inquiètes et outrées des associations, Grégory Phillips.
La mesure est dévoilée par le secrétaire à la sécurité intérieure, Kevin McAlenan, qui explique que lever cette limite des 20 jours dissuadera les migrants. Les passeurs disent aux candidats à l'immigration que s'ils franchissent la frontière illégalement avec un enfant, alors ils seront relâchés le temps de l'examen de leur situation qui peut durer jusqu'à 5 ans. L'été dernier, la même administration avait décidé de séparer les familles, éloignant parents et enfants avant de renoncer face au tollé. Cette fois encore, les associations de défense des droits de l'homme vont contester cette nouvelle mesure devant les tribunaux. Les médecins sont très clairs, constate sur NBC un porte-parole de l'Organisation de défense des libertés, ACLU. Garder ses enfants dans ce qui ressemble à des prisons pendant des mois, voire des années, va les traumatiser. On espère que la justice va empêcher cela. Donald Trump annonce aussi qu'il veut remettre en cause le droit du sol, pourtant inscrit dans le 14e amendement de la Constitution. Vous traversez la frontière, dit Trump, vous faites un bébé, félicitations, le bébé est un citoyen américain. On va regarder ça de très près. À 15 mois de la présidentielle, la lutte contre l'immigration clandestine est plus que jamais à l'agenda de la Maison-Blanche. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Notre eau polluée au microplastique, c'est un fait. On retrouve des particules dans l'eau que nous buvons, au robinet ou en bouteille, mais pas de danger pour la santé, estime ce matin l'OMS. Le risque est faible pour l'organisation mondiale qui met en garde, en revanche, pour les années qui arrivent. Si les émissions de plastique continuent au rythme actuel, il y aura alors des conséquences sur les écosystèmes aquatiques et par ricochet sur la santé humaine.
Il est 7h36 en France. Faustine, l'opposition au CETA ne faiblit pas.
Le traité de libre-échange avec le Canada est au centre du contre-sommet du G7 depuis hier à Hendaye. Il a donné lieu aussi à des actions contre les permanences d'élus de la majorité cet été. Et il sera sur les lèvres de tous les agriculteurs du mouvement de défense des exploitants familiaux. Ils organisent aujourd'hui à Paris une vente directe de leurs fruits et légumes au prix juste, dit-il. Un marché géant qui se tient depuis plus de 20 ans, mais qui prend donc cette année une dimension politique, Noémie Philippot.
Message traditionnel de cette vente, venez chez vos producteurs, ils gagneront mieux leur vie et vous paierez moins cher. Mais cette année, Pierre Thomas, le président du MODEF, a autre chose à dire.
C'est une opération contre le CETA, contre le libre-échange, bien évidemment. Nous avons des produits sains, de bonne qualité, et très souvent, pour des raisons de coût, nous importons d'autres produits qui sont produits avec des molécules interdites chez nous, et c'est tant mieux. Pourquoi aller importer des produits que nous avons déjà, pour lesquels peut-être il suffit des fois de s'organiser un tout petit peu mieux pour que nous ayons assez, voire largement assez, de ce que nous avons besoin.
Pour en parler avec les consommateurs, pas de tract, mais 20 tonnes de fruits et légumes fournis par une trentaine de producteurs du sud de la France. La politisation des tomates et des melons est d'autant plus claire que Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, sera sur ce marché.
Nous voulons une agriculture qui ne soit pas faussée par la concurrence déloyale avec des pays qui produisent des produits agricoles à bas coût et qui se retrouve ensuite dans nos marchés. Or, le CETA, c'est tout l'inverse.
Il le clamera haut et fort ce matin. Les sénateurs doivent dire non au projet de loi sur cet accord avec le Canada au moment de son examen à l'automne.
Le prix juste, les consommateurs qui achètent bio en grande surface ne sont pas prêts de le voir affiché. Une étude de l'UFC Que Choisir révèle aujourd'hui que les distributeurs appliquent des surmarges sur les produits bio les plus achetés, pommes de terre, tomates et pommes notamment. C'est le produit d'épargne préféré des Français. Le livret A fait toujours recette. Depuis le début de l'année, les Français y ont déposé plus de 16 milliards d'euros, en hausse de 37% sur les 7 premiers mois de 2019. Un incendie cette nuit dans un immeuble d'habitation à Créteil, au sud de Paris. Une femme est morte, 8 autres personnes, dont 4 pompiers blessés. Cet immeuble tout près de l'hôpital Henri Mondor loge une partie des personnels. Une cinquantaine d'habitants ont été évacués. Des carnets avec des dizaines de noms d'enfants et le récit d'actes sexuels retrouvés chez un chirurgien de Jonzac en Charente-Maritime. L'homme est soupçonné d'agression et viol sur au moins 4 petites filles. Il est en détention provisoire, mais ses écrits laissent penser aux enquêteurs que les victimes pourraient être plus nombreuses, Marine Proté.
C'est le témoignage d'une petite fille de 6 ans, la voisine du chirurgien à Jonzac, qui a permis de démarrer l'instruction judiciaire. Un jour, alors que son père rentre d'une balade, il trouve qu'elle a un comportement inhabituel.
C'est la dernière sœur, papa, et ben j'ai le monsieur, il m'a fait voir son zizi. Les enquêteurs nous demandent quand même de faire un examen. Et là, oui, on découvre que Chloé s'est fait violer.
Placé en garde à vue, Joël Le Squarnec finit par reconnaître une agression sexuelle, mais il nie tout viol. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les enquêteurs ont découvert chez lui des carnets avec des dizaines de récits et de dessins d'actes sexuels avec des enfants. L'avocate de la victime affirme qu'ils contiennent 200 noms et donc autant de victimes potentielles. Pour l'avocat du chirurgien Thibaut Curzava, ces récits relèvent uniquement du fantasme.
Mon client ne conteste pas en être l'auteur. Il ne conteste pas non plus d'ailleurs que ses écrits sont par nature assez sordides, hein, pour ne pas dire ignobles. Néanmoins, et j'insiste lourdement sur ce point, on n'a aucun élément sérieux qui puisse permettre d'établir que derrière chaque nom, il y a un fait.
Pour savoir s'il s'agit de fantasme ou de la réalité, une nouvelle enquête a été ouverte. Une dizaine de personnes a déjà été entendue dans les régions de France où le médecin a exercé. Un homme fasciné par la pédophilie, d'après les expertises psychologiques.
Et le procès de ce chirurgien pour agression et viol sur 4 enfants est prévu d'ici le début de l'année prochaine.
Le sport et la Ligue de football confrontés à l'homophobie dans les stades.
Les insultes, les chants homophobes, cela ne date malheureusement pas d'hier ni d'avant-hier. Mais cette saison, le nombre de dossiers a enflé. 18 rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 ont fait l'objet d'un rapport, a révélé la Ligue hier soir, contre 2 seulement la saison précédente. Les clubs passeront en commission de discipline mercredi prochain. Vous connaissez le le foot, forcément, peut-être aussi le air foot sans ballon. Eh bien, voici le plum foot. C'est comme du badminton, sans raquette, avec les pieds. Et ça n'a rien de marginal, puisque les championnats du monde se tiennent pour la première fois en ce moment en France, à Aubonne, dans le Val d'Oise. 16 pays représentés, 200 personnes et Clément Paulin qui a assisté au match.
Au coup de sifflet, il faut lancer en l'air le volant. On frappe ensuite du pied de toutes ses forces de l'autre côté du filet. Ayman Massou s'entraîne avec les autres joueurs français. Il est président de l'association France Plum Foot.
On contrôle le volant avec le torse ou avec les genoux et on essaye de le renvoyer de l'autre côté de manière plus ou moins rapide en utilisant ses pieds. C'est pas aussi dur qu'il n'y paraît. Il y a un temps d'adaptation et essentiellement, il faut suivre le volant du regard. C'est ce qu'on dit aux débutants quand ils débutent.
Étienne Gastineau, lui, n'est pas un débutant. C'est l'actuel champion de France de Plum Foot. Il se prépare mentalement pour son prochain match.
Moi, ce que je me dis toujours en rentrant sur le terrain, c'est Étienne, sois détendu, pense bien aux bases. Là, je vais jouer contre Hong Kong, qui est numéro 3 mondial. Ça va pas être simple.
Son père, Laurent, est au bord du terrain. Il suit son fils depuis 4 ans dans toutes ses compétitions.
Grande fierté, un grand stress aussi de le voir jouer. C'est tellement agréable de voir un enfant qui réussit. Il a fait des chaussures sur mesure, par exemple. C'est idiot, mais pour le plume foot, c'est hyper important.
Car d'après Ayman, le plume foot demande un matériel particulier.
On a des chaussures spécifiques. Il y a un peu plus de surface que des chaussures normales. Et surtout, elles sont relativement plates. Parfois, on appelle ça des palmes. Ça permet d'éviter les faux rebonds et d'avoir des contrôles optimisés.
Étienne entre sur le terrain. Son match dure une vingtaine de minutes, intense, rythmé. Mettre les jambes en hauteur est très énergivore pour les deux joueurs. Mais en 2-7, c'est terminé pour le Français.
Bravo !
L'entraînement reprendra avec cardio, précision et souplesse.
Les championnats du monde donc de ce plum foot, c'est à Aubonne dans le Val d'Oise. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre site franceinter.fr. 7h42, Pierre Veille.